Ouais, c'est une période vraiment particulière, hein, le confinement. Ça nous est tombé dessus, on ne s'y attendait pas. Et d'un seul coup, on est comme dans une parenthèse de vie complètement bizarre, hein, qui est pas du tout prévue au programme. Et pourtant, c'était prévu dans ce que le Seigneur avait prévu pour nos vies, hein, forcément. Donc c'est quelque chose, c'est une période qui va nous falloir racheter. Hein, vous connaissez le verset qui dit « racheter le temps, car les jours sont mauvais ». Donc là, il y a du temps à racheter. Et je dois dire que c'est pas simple, hein, quand on partage avec les uns et les autres, pour certains c'est plus facile que pour d'autres aussi, de trouver comment remplir ces journées. Il y a tous les cas de figure, je vais pas les passer en revue, il y a certains qui n'ont plus de travail parce que le travail s'est arrêté, sont seuls chez eux, donc ont des journées entières à remplir. Et puis il y en a d'autres qui sont, je connais un couple, ils sont les deux en télétravail plus les enfants à la maison, alors eux ils ont encore moins de temps que d'habitude, donc il y a vraiment tous les cas de figure. Et comme le disait Yuen, il y a aussi tous les cas de situation. J'étais avec des amis cette semaine par Zoom. Eux, ils ont 3 hectares pour sortir dans leur domaine. Certains les connaissent, ils sont dans le Gers. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ceux qui sont comme moi dans un appartement en ville. Bref, chacun son confinement, on va dire. Chacun son lieu. Et la bonne nouvelle, en tout cas, que je voudrais vous donner, c'est que moi, j'avais un peu d'avance sur vous par rapport à cette histoire-là à cause de mon fils qui habite en Chine. Et ça y est, ils sont sortis de leur confinement. Donc, il y a une fin au confinement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans cette Chine qui a traversé quand même de sacrées circonstances, hein, au niveau du coronavirus, eh bien, ils sont en train de sortir, comme vous l'avez vu dans les infos. Et cette semaine, on a eu une vidéo de notre petit-fils en train de faire la trottinette sur les trottoirs de Guangzhou. Donc il y a une fin au confinement et il y a une fin à tout ce qui est en train d'arriver, même si pour l'instant, pour ce qui est de l'Europe et des États-Unis, etc., on n'est qu'au début, malheureusement. Donc il va falloir persévérer, il va falloir trouver la grâce et la patience et comprendre aussi ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur veut nous dire dans ces circonstances-là. Moi, ce qui me travaille beaucoup, c'est l'après-confinement et le moment justement où on va sortir. Et ce que je recevais de manière assez claire, et c'est assez évident pour tout le monde, hein, c'est pas une grande révélation, c'est que les choses ne seront pas pareilles. Le monde ne sera pas pareil, les circonstances ne seront pas pareilles. On s'attend malheureusement à certainement des difficultés économiques sans précédent. Hein. Donc il y aura des circonstances de vie qui vont vraiment bouleverser les sociétés dans lesquelles nous sommes, au niveau politique peut-être également, au niveau social certainement. Et du coup, le défi de ce confinement, et c'est bien, c'est pas de sortir comme nous étions entrés. Et c'est de sortir différent de ce que nous étions lorsque nous sommes entrés. Et ça va être, je crois, le défi à relever. Et puis, sans se mettre une pression extraordinaire, mais de dire, on ne pourra pas vivre les choses comme on les vivait avant, puisque le monde dans lequel nous allons nous retrouver aura changé. Alors, peut-être pas du tout au tout, bien évidemment, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait un switch qui était en train de se faire et qu'une autre saison allait arriver. On a beaucoup parlé, hein, de la nouvelle saison qui arrive, et là, c'est comme si le Seigneur nous disait « Je vous mets dans une parenthèse, je vous mets dans un confinement pour que vous soyez préparés à vraiment entrer dans cette nouvelle saison. On a parlé de traverser le Jourdain, on a parlé des promesses dans le pays qui est devant nous, le pays à conquérir. Et bien sûr, tout cela reste d'actualité et encore plus. Mais là, on est dans cette période de préparation et d'attente. On l'était depuis longtemps, mais là, on va dire, c'est le camp intensif. Alors moi, j'avoue que j'ai eu du mal ça fait 15 jours là presque, j'étais pas dans une préparation intensive, je le confesse, j'étais pas content, un peu malade, à tourner en rond dans mes 4 murs. Moi, je suis assez speed, quand je prie en général, c'est en marchant à l'extérieur, donc tout mon petit quotidien était chamboulé, et ma femme pourra en témoigner, j'ai pas été très facile à vivre cette semaine. Voilà, c'est fait, j'ai confessé mon péché. Mais c'est évident qu'il faut qu'on s'adapte, hein, mais il va falloir vraiment trouver le bon angle pour prendre ce qu'on a à vivre. Et il y a sûrement de bonnes choses aussi que le Seigneur prépare en nous et autour de nous. Ce que j'ai préparé pour vous, c'est un peu long, ça va être un peu en mode plutôt enseignant plutôt que prédicateur. En général, quand je prêche, je suis debout et je cours partout. Donc là, c'est coincé pour moi. Encore quelque chose où il faut que je m'adapte. Non, mais ça va, il n'y a pas de souci. J'ai préparé plusieurs choses. Et pour introduire, je voudrais reprendre le verset que Mike Bakel a utilisé lorsqu'il a parlé pendant les Watchmen. Les deux fois où il a pris la parole, il a pris le même verset. Et ça introduit bien ce dont je voudrais parler avec vous. C'est un verset qui se trouve dans Romains 11, verset 22, et qui nous dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. » Excusez-moi. Un verset qui parle de la sévérité de Dieu, et en tout cas le mot sévérité, c'est le seul endroit dans la Bible où il se trouve, hein, donc c'est assez étonnant. Et l'apôtre Paul nous dit, il faut considérer, à certains moments en tout cas, pas forcément tous les jours, mais la bonté et la sévérité de Dieu. S'arrêter un peu sur les deux. Et en ce moment, apparemment, c'est un bon temps pour faire ça. Et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement en ce moment, de considérer eh bien, que Dieu est juste et qu'il y a dans le caractère de Dieu toute la dimension de sa justice et, comme on le verra, de ses jugements également. Alors, je ne sais pas si le coronavirus est un jugement, etc. Je ne vais pas entrer dans cette polémique, enfin, qui n'est pas une polémique, mais dans cette question, qui est une question quand même très sensible et pas évidente. Mais je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous sur la sévérité de Dieu. Alors, vous me connaissez, ce n'est pas trop mon sujet. Je suis plutôt sur la bonté, moi, en général. Et puis, il n'y a pas que moi, hein, la plupart d'entre nous, bien sûr. Parce que la bonté de Dieu, c'est son caractère fondamental. Ce qui me plaît dans ce verset, quand même, je vais le souligner, c'est qu'il nous demande de considérer la sévérité et la bonté, mais pour pouvoir garder ce qu'on a reçu, il faut demeurer dans la bonté. Hein. Il faut persévérer dans la bonté et dans la foi dans sa bonté. Et ça reste bien sûr le seul chemin pour nous. On ne va pas persévérer dans la sévérité de Dieu, on est bien d'accord. Mais il faut la considérer et peut-être le faire sérieusement en ce moment. Encore une fois, pour mettre le contexte de tout cela, vous savez que le caractère fondamental de Dieu, c'est l'amour, c'est la bonté. Dieu est amour. Et lorsqu'il se révèle à Moïse sur la montagne, lorsqu'il révèle son nom à Moïse, vous rappelez, il lui donne son nom, il lui dit « Je suis un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité ». Donc il parle de son caractère fondamental qui est l'amour, qui est la miséricorde, qui est la grâce. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et ensuite il nous dit « Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations ». Mais il punit l'iniquité des pères sur la troisième et la quatrième génération. Donc c'est juste pour montrer cet équilibre. Il y a une sévérité de Dieu qui est forte, hein, c'est lui qui punit. Et lorsqu'il punit, c'est très sérieux. Hein, mais c'est sur trois, quatre générations, en tout cas dans la révélation de son nom. Alors que sa bonté, son amour, dure sur 1000 générations, hein, dure à toujours. Et quand je réfléchissais à ça, à cette dimension-là, je me suis rappelé, alors c'est bien sûr à mon petit niveau, mon rôle de père quand les enfants étaient petits. À l'époque, on avait encore le droit aux fessées. Et parfois, il fallait donner des fessées, surtout à mes gars. Ma fille, elle n'en a pas eu trop, mais mes deux gars, il a fallu en donner quelques-unes lorsqu'ils étaient tout petits. Et juste pour dire, c'est évident que lorsque tu sais que le temps est arrivé pour corriger ton fils, pour lui donner une fessée, tu n'es pas là en train de te dire « Oh chouette, enfin je vais pouvoir exercer ma sévérité, depuis le temps que j'attendais, je vais pouvoir faire ce côté de mon caractère qui est tellement important ». Bien sûr que non. C'est toujours à contre-cœur qu'on le fait, c'est toujours en allant contre le fond de notre cœur qui est d'aimer, qui est d'être plein d'amour, plein de grâce, plein de douceur. Mais il y a des moments, il y a comme une limite qui a été franchie, qui exige, et là ça devient important, la sévérité. Alors fessé ou pas fessé, c'est pas le sujet, mais en tout cas la correction. En tout cas, mettre des limites, en tout cas, poser eh bien, quelque chose de beaucoup plus ferme et de beaucoup plus dur. J'ai jamais été très doué pour ça, mais en tout cas, j'ai appris à le faire. Et en pensant à cela, je me suis dit que Dieu était comme cela. Ce n'est jamais par plaisir qu'il va corriger ou qu'il va envoyer une condamnation, un jugement. Ce n'est jamais le fond de ce qu'il désire le plus pour quelqu'un. Mais malheureusement, à cause du péché, à cause de l'injustice, à cause de l'iniquité, eh bien, il y a des décrets de justice qui vont obligatoirement s'accomplir, qui doivent s'accomplir. Et Dieu va même les freiner le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il avait été... on avait critiqué Paul et Pierre en disant « Mais vous avez dit qu'il allait revenir, que le jour de sa justice allait s'accomplir, mais en fin de compte, il n'y a rien qui bouge. » Eh bien, la réponse était « Mais pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour, mais il fait tarder sa justice, il fait tarder son jugement pour pouvoir exercer sa miséricorde le plus longtemps possible. » Donc, il y a vraiment besoin de faire durer l'ordre le plus longtemps possible. Un petit verset dans les psaumes qui confirme ça, psaume 30, verset 6. « Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Sa colère dure un instant, mais sa colère peut être terrible. Il y a un verset qui me fait trembler, qui se trouve dans l'Apocalypse, je ne sais pas la référence là, mais qui nous parle de la colère de l'agneau. Vous avez peut-être déjà lu ça dans l'Apocalypse, c'est absolument étonnant de mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre. L'agneau, c'est vraiment le symbole de la douceur, de la grâce, qui se met en colère. La colère de l'agneau, elle va être terrible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la grâce qui a été tellement grande, tellement magnifique et qui a tout coûté au Seigneur de gloire, eh bien, arrivera à sa limite, arrivera à son terme. Et bien sûr, on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça n'arrive pas, mais la Bible est claire, ça arrivera. Et ça sera le jour du jugement, le jour de la colère de l'agneau. Alors, on ne va pas partir dans l'eschatologie, ça serait encore quelque chose de complexe et je n'ai certainement pas toutes les réponses. Mais une chose est sûre, dans la notion de l'avancement des temps, nous allons de plus en plus vers ce jour que la Bible appelle le jour terrible de Dieu, le jour terrible et redoutable, celui qu'on ne veut pas voir arriver. Et c'est clair qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'on est dans le jour terrible de Dieu, mais on est comme dans un signe que les temps s'accélèrent et que ça va arriver. Dans notre génération ou pas, j'en sais rien, mais ça va arriver. Il y a une accélération des temps. C'est vrai qu'il y a eu des fléaux et des maladies pendant toute l'histoire, et des pandémies beaucoup plus graves et beaucoup plus terribles. Vous connaissez tous, entendu parler de la grippe espagnole, par exemple, 30 millions de morts, etc. Donc des choses beaucoup plus graves. Mais ce qui se passe aujourd'hui est assez étonnant, et c'est aussi un signe des temps, c'est la notion mondiale, la mondialisation de cette maladie. Ça n'a jamais été aussi vaste, aussi loin. Je ne sais plus quelle petite île, genre Wallis et Futuna, ils ont eu aussi leur cas de coronavirus. Donc c'est la première fois qu'une maladie fait un tel parcours sur la Terre. Il y a une notion de mondialisation et on peut le retrouver dans toutes les autres problématiques qui ont déjà existé. Elles s'internationalisent. Et on va le voir certainement avec la crise économique qui nous pend au nez. Elle va être mondiale, etc. Les problèmes climatiques sont mondiaux. Tout est mondial maintenant. Il y a la mondialisation. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est un signe des temps positif, la mondialisation. Parce que Jésus a dit, eh bien, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations et alors viendra la fin. Donc ça veut dire que cette mondialisation que parfois on reproche, elle est aussi un vecteur pour la grâce et pour le salut et pour le royaume de Dieu. La mondialisation a permis à l'évangile d'aller sur toutes les nations de la terre, de parcourir le monde. Et qu'on a vu l'autre jour dans notre Zoom des Watchmen, qu'on était 140 nations, je crois, représentées avec des 120 000 personnes, je crois, on est dans une mondialisation positive. Donc, voyons cela aussi, et rappelons-le, les deux sont en train de croître. Hein. La mauvaise herbe livrée et la bonne herbe croissent en même temps sur la terre jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur en gloire qui viendra moissonner le monde. Je reviens quelques instants sur cette notion de la sévérité de Dieu et la notion du jugement. Les jugements de Dieu, en fin de compte, ils sont comparables à des condamnations légales qui tombent par rapport à des péchés, des iniquités et l'infraction à la loi. Vous savez que la loi, eh bien, elle requiert une justice. Et celui qui enfreint la loi, il doit être puni selon la justice de la loi, selon le code pénal pour notre pays. Et bien sûr, chaque faute a en face d'elle une condamnation, une pénalité, une peine. Et on le sait très bien, c'est une réalité dans laquelle on vit et qui est juste. Alors, les condamnations sont plus ou moins justes selon les hommes, mais selon Dieu, ces condamnations sont toujours justes. Vous savez que la justice et l'équité sont la base de son trône. Son règne est fondé sur la justice, donc toutes les décisions qu'il prend sont toujours justes. Elles sont toujours justes, on ne peut jamais les remettre en question en disant ah, « là, tu as été trop dur, là, tu aurais dû, il y a des circonstances atténuantes, etc. » Donc, non, y a, à chaque fois, La peine qui est prononcée est juste devant le tribunal de Dieu. Alors vous savez, la première peine qui a été prononcée, eh bien c'est la mort. Lorsque l'homme a péché, il a été séparé du Dieu de la vie, et Dieu l'a expulsé du jardin d'Éden pour qu'il ne puisse pas vivre éternellement en mangeant de l'arbre de la vie. Donc en sortant du jardin d'Éden, la mort est entrée dans le monde. Et la Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre solution. La mort, sur le parcours de la vie, n'est pas normale. C'est une anomalie due au péché. Sur le parcours de la vie, il y a quelque chose qui nous arrête et qui nous dit « c'est parce que tu as péché ». Et si tu réalises peut-être en ce moment encore plus que la mort est une réalité, et pour certains malheureusement, elle est autour de nous, elle est dans nos familles, elle est près de nous, eh bien, sache que cette mort-là, elle est là uniquement à cause de notre péché, à cause de nos fautes. C'est le salaire du péché. Mais le verset s'arrête pas là. Le verset nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur a dit, oui, je suis obligé de condamner le péché, mais j'ai apporté une solution, j'ai apporté un libérateur, un sauveur, et c'est ma grâce qui va abonder là où le péché a abondé. Ma grâce va surabonder. Et lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu pour juger le monde. La première fois où il est venu, il n'est pas venu pour condamner le monde. La première fois où il est venu pour sauver le monde et pour donner sa vie en rançon. Et ça, c'est notre évangile, et c'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est la solution de Dieu au péché de l'humanité. Mais c'est clair, le salaire du péché, c'est la mort. Et un autre verset nous dit, après la mort vient le jugement. Et ça, c'est incompressible. C'est le parcours obligatoire de tous les hommes. Après la mort vient le jugement. Et nous serons, nous aussi, jugés, nous les chrétiens, nous passerons devant le tribunal de Christ pour obtenir des récompenses. Donc ça peut être aussi un jugement positif pour nos vies. Mais certains seront sauvés comme au travers du feu, nous dit Paul. C'est-à-dire que certains eh bien, seront sauvés par la grâce, mais n'auront aucune récompense parce que leur vie n'aura pas été à la hauteur de la volonté de Dieu pour eux. Ils auront suivi leur chemin, suivi leur route, vécu leur vie chrétienne en dehors du projet de Dieu. Et surtout, ils n'auront pas porté de fruits. Ils n'auront pas laissé Dieu transformer leur vie, etc. Oui, le salut pour eux sera possible, mais comme au travers du feu, comme limite, quoi. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que n'ayons pas un salut limite. N'ayons pas un salut, vous savez, oh, moi, je me contente d'un petit strapontin au ciel, vous savez. J'ai cru... Ça marche. Mais non, ne nous contentons pas de ça, c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux, le salut que Jésus nous a offert. Et c'est tellement merveilleux de découvrir tout ce qu'il a en réserve pour nous, non seulement dans l'éternité, mais déjà dans cette vie. Alors, avec Paul, je voudrais vous dire, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut, mettez-le en œuvre, approfondissez-le dans vos vies personnelles, mais aussi dans vos actions. Vous savez que le salut commence à l'intérieur, mais il va produire des œuvres. La repentance commence à l'intérieur, mais elle produit des fruits de repentance. Donc travaillons notre salut en ce moment, plus que d'habitude. Je ne dis pas qu'on ne l'a jamais fait, mais plus que d'habitude. Travaillons à notre salut, parce que nous voulons avoir la tête haute lorsqu'il reviendra. Mais là encore, ça ne sera jamais parce qu'on est bon qu'on sera sauvé. Ça ne sera jamais parce qu'on a bien travaillé qu'on sera sauvé. Ça sera toujours à cause de la grâce de Christ qui vit en nous. Vous savez, l'apôtre Paul, qui a peut-être le plus travaillé à son salut parmi tous les hommes qui ont vécu sur cette terre, dira en fin de compte, j'ai travaillé plus que vous tous, puis il s'arrête et dit, mais non, pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Donc ça, c'est ce qui fonde notre vie. Les progrès que nous pouvons faire, nous les faisons avec sa grâce, avec l'aide de son esprit, en collaborant avec lui. C'est lui qui fait le plus grand job. C'est lui qui fait l'œuvre qu'on est incapable de faire. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais il ne le fera pas sans nous. Il ne le fera pas sans notre collaboration. Il ne le fera pas sans notre approbation, sans le fait de dire « Vas-y Seigneur, fais ton job, je m'offre à toi pour que tu continues ton travail ». Et je vais faire ma part. On dit souvent, la part de l'homme, c'est 1%, la part de Dieu, c'est 99%. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est que si on ne fait pas les 1%, il ne peut pas faire les 99%. Donc, faisons notre part, et il fera la sienne. Il y a un verset terrible, toujours quand on considère la sévérité de Dieu, c'est... Le psaume 29, verset 10, qui nous dit « Dieu était sur son trône lors du déluge ». Alors c'est terrible parce que le déluge, quand même, c'est peut-être la chose la plus terrible qui est arrivée sur la terre jusqu'à aujourd'hui, puisque tous les hommes, mis à part Noé et sa famille, ont été détruits. Et le verset nous dit « Dieu était sur son trône ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu était en contrôle de ce qui était en train d'arriver. Ça veut dire que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe. Il n'est pas surpris, et bien évidemment, surtout lorsque c'est lui qui déclenche un jugement. Il est sur son trône, c'est-à-dire que Dieu, on va dire, il se tient droit dans ses bottes, pour reprendre une expression bien de chez nous, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et même si au fond de son cœur, il y a forcément à ce moment-là une tristesse, qu'on ne peut même pas sonder. Mais il le fait parce qu'il sait que c'est juste. Alors, c'est quand même une grande question, quoi. Comment ça se fait qu'il y a eu ce déluge ? Et quand on revient sur l'histoire de l'humanité de l'époque, et Fabienne l'avait mentionné dimanche dernier, il y a un verset qui est extrêmement fort, qui nous dit dans Genèse 6, verset 5, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, les hommes sont là sur la terre, ils sont extrêmement méchants et ils arrivent à un comble de péché qui est le fait que toutes les pensées de leur cœur ne se tournent chaque jour uniquement vers le mal. Faut quand même y aller là. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus aucune graine de bonté ou de pensée, on va dire, de grâce, de miséricorde. Il n'y a plus rien. Toutes les pensées de l'humanité se tournent chaque jour uniquement vers le mal. Et du coup, c'est comme s'il n'y avait plus de possibilité pour Dieu d'intervenir autrement que par un jugement radical. Et il y avait aussi une dimension spirituelle très grave, hein, de communion entre les démons et les hommes à l'époque, etc. Donc une corruption de l'humanité à son comble. Et c'est ça le point qui nous font comprendre, c'est que le péché, c'est un principe de corruption progressif. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans une civilisation, que ce soit dans toute l'humanité, le péché, c'est comme un levain. C'est comme le levain du royaume pour les choses positives, c'est la même chose pour le levain de Dieu. Eh bien, ce péché, c'est une graine qui grandit. La Bible nous parle du mystère de l'iniquité qui est à l'œuvre et qui va grandissant. Et c'est ce qui s'est passé pour cette première humanité, l'humanité du temps de Noé. Le péché qui avait été le péché originel a mis quelques siècles à grandir, à pénétrer l'humanité et à la toucher partout. Et ça a été progressif. Vous savez, certains d'entre eux ont marché dans la justice. Il y a même Enoch qui, lui, a tellement plu à Dieu qu'il a été enlevé. Donc ça veut dire que ce n'est pas inexorable. Le péché ne touche pas tout le monde de la même manière. Certains arrivaient à se battre contre. C'est un mystère pour Enoch. Mais en tout cas, on peut freiner l'avancement du péché dans nos vies. C'est valable pour nous les chrétiens, mais c'est valable pour le monde entier. Et c'est pour ça qu'on voit autour de nous des hommes et des femmes qui font des choses très bonnes et qui font des choses qui sont justes devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sauvées, puisqu'on peut être sauvé par nos œuvres, mais ça veut dire qu'elles ont, soit par leur éducation, soit par leur conscience, soit par une adhésion à des principes de vie et des valeurs qui viennent du royaume, eh bien, ils ne laissent pas le péché envahir toute leur vie. Et c'est vraiment notre prière pour nous-mêmes, mais bien sûr pour le monde qui nous entoure, que l'on tienne bon. Parce que tant que nous ne laissons pas le péché monter jusqu'à son comble, alors le jugement radical ne tombe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres jugements, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres conséquences, parce que le péché fait quand même des gros dégâts et Dieu est juste, donc il commence déjà à juger et à punir. Il y a des choses terribles sur la terre en ce moment et depuis des siècles et ça va grandissant. Mais on retient aussi le jugement par la pratique de la justice et par la miséricorde. Un autre verset qui confirme ça, c'est dans l'histoire de la conquête de Canaan. On trouve ça dans Genèse 15, au verset 16. Vous savez, c'est au moment où Abraham va offrir le sacrifice, où il va séparer les animaux en deux, et il va attendre que le feu descende du ciel pendant une nuit terrible, là où il est devant Dieu en train d'attendre la confirmation. Et Dieu va venir et va lui donner une promesse. Et la promesse qu'il lui donne concerne sa descendance, à nouveau, et concerne son peuple. Et il va dire quelque chose de particulier par rapport au peuple d'Israël. Il dira, je n'ai pas le verset lu là, c'est dans Genèse 15, 16, mais peu importe. Il dira qu'il va attendre, il va laisser Israël en esclavage en Égypte pendant 400 ans, parce que le péché des Amoréens ne sera pas encore arrivé à son comble pour la conquête. Il faut attendre que le péché des Amoréens arrive à son comble pour que le jugement de Dieu vienne. Et le jugement de Dieu sera qu'Israël va conquérir le pays de Canaan. Mais ce n'était pas le temps parce que le péché des Amoréens n'était pas encore à son comble. Et quand Israël va arriver devant Canaan, alors le péché des Amoréens, 400 ans après, sera à son comble. Et là, on parle de sacrifices d'enfants, enfin, toutes sortes de choses horribles qui se pratiquaient parmi ces peuples-là. Et du coup, là, Dieu, dans sa justice, décide de les détruire. Et il va le faire à travers la conquête de Canaan. Donc, ce principe, on le retrouve régulièrement dans la parole de Dieu. Et c'est bon de le savoir. Et c'est comme ça qu'on considère la sévérité de Dieu. Autre chose aussi dans ce principe des jugements, c'est que les jugements sont proportionnels à la révélation que l'on a. Et ça nous fait trembler par contre. Lorsque Jésus a visité Capernaum et Chorazin, ces petits villages d'Israël, et qu'ils ne se sont pas repentis suite à sa visite, Jésus a été très sévère avec eux. Et il leur a dit, au jour du jugement, les gens de Sodome et Gomorre viendront et c'est eux qui vous accuseront. parce que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas repenti le jour où Dieu vous a visité. Donc, waouh ! C'est-à-dire que là, d'un seul coup, des gens qui ont été en relation au bénéfice du ministère de Jésus seront jugés plus sévèrement que ceux eh bien, qui étaient complètement perdus dans les ténèbres, comme ceux de Sodome et Gomorre. Donc il y a quelque chose de proportionnel et bon, ça nous fait réfléchir et ça nous fait aussi prendre conscience que c'est pas parce qu'on connaît Jésus et parce qu'on connaît sa grâce qu'on peut vivre n'importe comment et faire comme si le jugement n'avait plus de prise sur nos vies. Bien sûr, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si on continue le verset nous dit à condition que vous viviez par l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car ceux qui sont en Jésus-Christ vivent par l'Esprit et sont fils de Dieu. Il faudra relire le texte. Vous savez, on ne peut pas être léger avec la grâce de Dieu. Au contraire, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs mauvais et à vivre dans ce monde selon la justice et la miséricorde. Donc la grâce de Dieu est une base, c'est le fondement de nos vies pour grandir et marcher dans la volonté de Dieu. Alors, on ne va pas se faire peur avec cette parole, mais on va la serrer dans nos cœurs et demander à Dieu de nous conduire dans une vie davantage consacrée, en tout cas avec certainement plus de sérieux par rapport à ce qu'il nous demande de nous. Et concernant Sodome et Gomorre, vous vous rappelez, il y a eu un épisode incroyable, c'est l'intercession d'Abraham. Lorsque Dieu a vu que le péché de Sodome et Gomorre justement était arrivé à son comble, alors il a décidé, et c'est d'ailleurs étonnant, de venir voir par lui-même. On lui avait raconté, c'est un ange peut-être qui était venu lui dire « Seigneur, ça va vraiment mal dans cette ville », comme s'il ne le savait pas, enfin, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Mais en tout cas, Dieu décide lui-même de venir. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, avant de passer vers Sodome et Gomorre, il dit « Ah, mais je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire ». Abraham, mon ami, a besoin de savoir ce que je vais faire à Sodome et Gomorre avant que j'y aille. Et bien sûr, il y avait le fait qu'Abraham était l'ami de Dieu, mais il y a aussi le fait qu'il y avait Lot, le neveu d'Abraham, à Sodome et Gomorre. Et le Seigneur s'est dit, il faut quand même que j'en parle à Abraham, parce qu'il y a son neveu qui est là. Et donc, le Seigneur fait une halte. Ils sont trois d'ailleurs, vous vous rappelez, ils viennent et Abraham va faire un festin pour eux. Et ils vont manger ensemble. Et ensuite, le Seigneur va dire, Abraham va dire au Seigneur, il faut qu'on cause ensemble. Et il va y avoir cette intercession d'Abraham qui est impressionnante, qui nous montre l'intimité qu'Abraham avait avec Dieu, la promixité relationnelle, cette capacité à être dans un échange, dans un dialogue, pour faire plier le bras de Dieu. Et vous rappelez cette intercession, on ne va pas la lire, mais Abraham va commencer avec 100 justes. S'il y a 100 justes dans cette ville, est-ce que tu veux la détruire? Et Dieu dit, bah non, s'il y a 100 justes, je ne la détruirai pas. Donc on voit le principe que les justes maintiennent une ville hors du jugement de Dieu. Si les justes sont présents et s'ils font le job. Et puis ensuite, l'intercession va descendre. Je ne sais plus, il a commencé à 100 et après il descend jusqu'à 50, 40, 10. Et à un moment donné, il n'y a plus assez de justes. À un moment donné, l'intercession d'Abraham ne peut pas être exaucée pour que la ville ne soit pas détruite, mais il réussira à obtenir le salut de son neveu, qui est un juste vraiment limite, hein. Mais il est juste quand même. Mais Dieu va le sauver en lui demandant de sortir. Vous vous rappelez, il envoie les anges ensuite, avant la destruction, pour aller sortir Lot et sa famille. Et ensuite, le jugement tombe. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ce principe qui est, je crois, une clé en ce moment pour nous, que les justes eh bien, sont le sel de la terre qui empêche la corruption et qui freine l'avancement des jugements. Ils le font par leur vie de justice et par leur intercession. Et les deux vont de pair. Et du coup, je me suis penché sur ce principe-là et je voudrais partager avec vous ce que j'ai trouvé, le principe du sel. Le principe du sel et le fait que notre rôle dans la société, c'est d'être le sel de la terre. Il y a des versets qu'on connaît bien, et d'autres qu'on connaît un peu moins bien. Je vous lis les deux qui sont dans l'évangile, il y en a trois, mais j'en lis deux. Celui de Matthieu. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Donc ce premier nous définit comme étant le sel de la terre. C'est notre nature, c'est notre identité, mais aussi c'est notre rôle. Parce que le sel, ça a un but en soi. Si Jésus utilise cette image, c'est parce qu'il y a un rôle derrière cela. Donc nous sommes le sel de la terre, mais il y a un avertissement. Si le sel perd sa saveur, eh bien il ne sert plus à rien. Ce n'est pas juste parce que j'ai l'étiquette chrétien, évangélique, charismatique, pentecôtiste, c'est tout ce que vous voulez, que je suis le sel de la terre. Si je perds ma saveur, je ne sers plus à rien. Et là, du coup, il y a quelque chose qui tombe, qui est assez sévère, et il sera jeté. Deuxième verset, cette fois-ci dans Marc, Marc 9, 50. « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Il y a une petite nuance là. C'est plus nous qui sommes le sel, mais nous devons avoir du sel en nous-mêmes. Et je trouve ça intéressant parce que les deux ont écouté Jésus, mais c'est un petit peu nuancé. Et bien sûr, les deux sont vrais. Nous sommes le sel, mais Marc nous dit à condition d'avoir du sel en nous. Donc ce n'est pas juste une certitude. C'est pas juste, c'est comme la lumière, quoi. Je suis la lumière, quand je marche dans la rue, tout le monde me regarde. Ben non, tu es la lumière à condition que ta lumière éclaire les autres. Eh bien le sel, c'est pareil, je suis le sel, c'est-à-dire que c'est mon identité, c'est ce que Dieu a voulu de nous, Église de Jésus-Christ, à condition que nous ayons du sel en nous-mêmes. Et du coup, j'ai cherché d'autres versets qui parlent du sel dans la parole. Et j'en ai trouvé un déjà fondamental qui se trouve dans Lévitique 2, 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Et il y a d'autres versets en parallèle qui parlent de mettre du sel sur les holocaustes, sur tous les sacrifices. Donc le sel était obligatoire sur toutes les offrandes qui étaient offertes dans le tabernacle selon la loi lévitique. Donc le sel, d'un seul coup, devient quelque chose d'incontournable dans notre service envers Dieu, dans notre adoration, dans notre vie de prière, dans l'offrande de nos vies, dans tout ce qu'on offre au Seigneur, notre argent, nos temps, enfin, etc. On peut faire toute la liste des sacrifices de bonne odeur au Seigneur. Il faut qu'il y ait à chaque fois du sel. Et le verset nous précise, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, il est le signe de l'alliance de ton Dieu. Le sel est le signe de l'alliance de ton Dieu. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Cène, qui est le nouveau signe de l'alliance. Le pain et le vin sont le signe de l'alliance avec Dieu. Donc là, on est dans l'Ancien Testament, maintenant on est dans le Nouveau Testament, mais il y a un signe de l'alliance. Et le sel était donc le signe que tous les sacrifices étaient offerts dans le cadre d'une alliance qui était celle que Dieu avait fait avec Israël sur le mont Sinaï. Et bien maintenant, nos sacrifices, toutes nos offrandes, tout ce que nous offrons au Seigneur sont à faire dans le cadre du signe de l'alliance qui est l'offrande du sacrifice de Jésus. C'est une évidence, mais combien c'est important de le rappeler. Ce que j'offre au Seigneur n'a aucune valeur en dehors du sacrifice de Jésus. Tout ce que je lui donne parce que je suis en lui, parce que je suis revêtu de sa justice. Je ne le donne pas parce que je suis meilleur que les autres, je ne le donne pas parce que je suis un super chrétien consacré, je le donne parce que je suis en lui, caché en lui. Je ne me glorifie pas moi-même, je suis là dans sa justice. Et je conserve en moi la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et je dirais, le sel dans tout le domaine de notre sacrificature, c'est la foi au sacrifice de Jésus. C'est la foi au sacrifice de Jésus. Sans cette foi-là, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et en ce moment, et on le fera tout à l'heure, quand on reprend le pain et le vin, on reconfirme et on réaffirme notre foi sans les œuvres au sacrifice de Jésus pour notre justice et pour notre salut. Un autre verset, toujours sur le sel, et il est très intéressant pour nous dans le contexte, je crois, où nous nous trouvons, dans 2 Rois 2, 19 à 22, c'est une petite histoire du prophète Élisée. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent, il alla vers les sources d'eau, et il y jeta du sel, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Le sel devient là, au travers d'Élisée, un moyen de purification contre la mort, contre la stérilité, dans une ville dont il est dit « le séjour de cette ville est bon ». Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que la ville où tu vis est appelée à être une ville où il fait bon vivre. Et la ville de Toulouse est une ville où il fait bon vivre. Hier, on a été faire une promenade, c'est qu'on a le droit de se promener pendant une heure. Donc nous, on a la chance d'avoir les bords de la Garonne juste à côté de chez nous. Et en ce moment, curieusement, c'est une ville où il fait bon vivre quand tu te balades. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, c'est tout calme. Il y a les oiseaux, il y a la rivière qui coule, il fait super beau. Franchement, en ce moment, c'est magnifique. Toulouse est une ville où il fait bon vivre. Malheureusement, elle s'abreuve à une source de mort et de stérilité. Et c'est comme ça, malheureusement, dans la plupart des villes. Et c'est comme ça dans la plupart des pays. Et nous avons quelque chose à faire. Comme Élisée, nous avons le sel. Nous avons le sel qui vient et qui purifie les sources. Alors, on peut le faire prophétiquement. Moi, j'ai déjà versé du sel dans le gave de Pau à Lourdes pour purifier les sources. Fallait le faire quand même. À l'époque, on n'avait aucune conscience des combats spirituels qu'on menait. Bon, je l'ai pas fait. J'ai fait avec des gens qui avaient la carrure, mais quand même, je crois que j'aurais jamais dû faire ça. Donc, ne faites pas n'importe quoi en mettant du sel dans n'importe quelle source d'eau, mais réalisons que nous sommes le sel de la ville. Et que nous sommes ceux qui pouvons changer la mort en vie, la stérilité en fécondité. Nous sommes ceux qui peuvent apporter à la ville son bien. Et ça fait référence à cette parole de Jérémie 29, « Recherchez le bien de la ville où vous avez été déporté en captivité. Recherchez son bien, priez pour elle, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et nous sommes vraiment dans cette dimension-là. Aujourd'hui, il y a un esprit de mort qui est clairement répandu sur les nations. Et nous avons en nous l'esprit de la vie, l'esprit de la résurrection de Christ, l'esprit de la guérison pour les malades, l'esprit de la compassion pour ceux qui souffrent, l'esprit de la multiplication de la vie là où il y a la stérilité et la mort. Et nous allons proclamer que nous sommes le peuple de la vie au sein des ténèbres et non pas un peuple sous le joug de la mort. La mort nous fait peur parce que nous sommes humains. Moi, je dois dire que j'ai eu peur de la mort la semaine dernière. Nous sommes dans cette crainte. Mais celui qui est en nous, nous donne la capacité de vaincre nos craintes. C'est pas qu'on n'a pas de crainte, c'est qu'on a la capacité de les vaincre et de devenir porteur de vie, porteur d'espérance et de foi dans la guérison et bien sûr le salut. J'arrive à la fin de ce que je voulais partager avec vous, même s'il y aurait bien d'autres choses à dire. Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Eh bien, le sel, là, d'un seul coup, devient quelque chose qui passe par notre bouche pour aller bénir et toucher ceux qui nous entourent. Et combien, en ce moment, on a besoin de veiller sur notre bouche ? Comme je disais pour moi-même la semaine dernière, j'étais un peu tout ce qui sortait de ma bouche n'était pas forcément des paroles de sel et de grâce. Et donc, il y a vraiment besoin de se repentir et de dire « Seigneur, je vais parler dans ces lieux, dans ces temps spécifiques et difficiles. » Alors bien sûr, on n'a pas beaucoup d'interactions avec les voisins ou avec les gens dans les rues, mais on a beaucoup d'interactions sur Internet, on a beaucoup d'interactions par SMS. Soyons du sel dans nos paroles. et préparons-nous pour le temps de la moisson qui vient, où il va falloir qu'on parle de plus en plus de l'espérance qui est en nous. Les gens vont nous demander des comptes, mais pourquoi vous avez la foi, pourquoi vous avez la paix, pourquoi vous avez la joie ? Soyons préparés et que nos bouches soient porteuses de grâce, nous dit Paul, mais aussi de sel. C'est-à-dire quelque chose qui fait la différence, quelque chose qui est la parole à propos, pour le moment à propos, parole de vie, parole inspirée de l'esprit, parole de grâce, bien sûr, parole parfois de sévérité, s'il le faut, mais parole juste, celle qui vient inspirée par l'esprit au bon moment, dans la bonne situation, parce qu'il y a une moisson qui se prépare. Et moi, je voudrais dire que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc on a commencé ce temps en disant « Considérons la bonté et la sévérité de Dieu ». Ce n'est pas forcément la sévérité de Dieu qui me pousse à la repentance. Il faut la considérer et réaliser que le péché est grave. Mais c'est lorsque je réalise que même si le péché est grave, Dieu me pardonne, que je vais être poussé à la repentance. C'est-à-dire que c'est sa bonté qui fait que je ne peux absolument pas continuer de blesser le cœur de celui qui m'a tellement aimé. C'est sa bonté qui me pousse à la repentance. C'est sa bonté qui me pousse à un changement de vie. C'est sa bonté qui va me permettre de devenir sel de cette terre et du monde qui nous entoure. La bonté de Dieu me pousse à la repentance. Seigneur, merci. Parce que dans Jacques, verset 2 au verset 13, tu nous dis que la miséricorde triomphe du jugement.